France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuelle Davier.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission où chaque dernier vendredi du mois, nous relayons vos messages adressés à la rédaction de France Inter. Vous avez été très nombreux à nous écrire au sujet du traitement éditorial de la campagne électorale. France Inter a consacré 120 heures d'antenne à l'élection présidentielle en multipliant les émissions, les matinales spéciales, pour faire vivre ce rendez-vous démocratique. Et ce matin, nous allons évoquer les sujets qui ont suscité le plus de courriers de votre part. Au menu des remarques et des reproches, le temps de parole des candidats, l'omniprésence des sondages, le peu de place accordée à la question du climat, les micro-trottoirs et donc nous verrons tout cela avec mes deux invités ce matin en studio. Philippe Lefébure, directeur de la rédaction de France Inter, bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Legrand, éditorialiste politique de la rédaction, bonjour.
Bonjour.
On a mis sur le papier Gilles et moi, et Gilles et moi seul, 7-8 thèmes qui sont pas, il n'y a pas de grand suspense. Il y aura le pouvoir d'achat, il y aura les retraites, il y aura l'international, il y aura l'Europe, il y aura la sécurité, il y aura l'immigration, tous ces thèmes-là.
L'environnement.
Il y aura l'environnement, évidemment, et je l'oublie alors qu'on va en parler longuement et beaucoup, et je tiens à le dire sur cette antenne parce que beaucoup me disent on n'a pas assez parlé d'écologie, et c'est vrai, on va en parler dans ce débat.
Marine Le Pen, donnée par tous les sondeurs en hausse et au deuxième tour, était donc à Perpignan, devant 3 à 4 000 personnes. Galvanisé comme si la victoire était à portée d'urne.
Ce matin, selon les sondages, donc Emmanuel Macron ne bénéficie plus de l'avantage chef des armées qu'il avait propulsé au début de la guerre au-dessus de 30%. Il est revenu autour de 26-27% à son niveau d'avant l'offensive russe, niveau d'une remarquable stabilité depuis 5 ans.
La sensibilité écologique des auditeurs de France Inter s'est largement manifestée dans les messages reçus ces dernières semaines. Le résumé de leurs plaintes tient en une phrase. Le climat est le grand absent de la campagne et de vos interviews. Je vous lis deux messages. J'ai été interloquée, et je ne suis pas la seule, du peu de temps, voire de l'absence absolue de questions aux candidats à la présidentielle dans la matinale de France Inter sur le changement climatique. Cela reste une thématique finalement marginale. Avez-vous conscience que ce n'est pas qu'un sujet pour écolo obsessionnel et amiche, mais le sujet pour nos démocraties au XXIe siècle. Et puis une autre auditrice écrit « Je vous écoute fidèlement depuis 5 ans, votre matinale est d'une qualité supérieure aux autres radios, mais voilà, depuis des mois je suis révoltée, dégoûtée, en colère, j'attends désespérément chaque matin que vous mettiez au centre de l'actualité l'urgence climatique. Des millions de personnes vous écoutent, vous avez un devoir d'information, le rôle des médias est capital pour une prise de conscience citoyenne qui va permettre les réformes structurelles dont nous avons besoin, alors qu'il devrait être au cœur de l'actualité tous les jours, le sujet climatique. Et quand il n'est pas absent de vos journaux d'information, tout simplement éclipsé, relégué au quatrième, au cinquième plan de l'actualité. Alors Philippe Lefébure, Thomas Legrand, trouvez-vous les remarques de ces auditrices fondées?
Alors absence absolue de questions sur le climat, franchement c'est un peu dur d'entendre ça. Sur le constat global, on pourrait dire oui, on pourrait aller dans le sens quand même des auditeurs. C'est vrai que, enfin, on a quand même essayé de faire le maximum. Je veux dire, vraiment, on a posé les questions sur le climat. Dans la version XXL du 8h20, Sandy Dauphin, l'une de nos spécialistes environnement, rejoignait l'équipe du matin pour poser des questions. Il y avait une séquence dédiée donc à ces questions. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres, beaucoup d'autres questions à aborder dans l'élément que vous avez diffusé. Bien sûr, l'Ukraine, le pouvoir d'achat, ça a pris beaucoup, beaucoup de place. Mais les questions qui ont été abordées, les réponses surtout qui ont été données à nos journalistes, portaient uniquement sur l'énergie. Finalement, on a parlé l'éolien, on a parlé du nucléaire, et on s'est un peu limité finalement à ces questions-là quand on a voulu aborder le climat.
Thomas Legrand, comment vous expliquez que la question du climat ait été si peu évoquée au cours de la campagne ?
Alors d'abord, c'est ce que je voulais dire, c'est au cours de la campagne qu'elle a été peu évoquée, parce que la campagne a démarré il y a quelques mois par l'irruption d'Éric Zemmour. C'était le fait de campagne et de ses thèmes. Lui, il avait une théorie, celui qui gagne à la fin, c'est celui qui impose ses thèmes. Et il a voulu imposer ses thèmes qui n'étaient pas l'environnement. Nous, dans le paysage médiatique, nous avons résisté à ça. Nous n'avons invité Éric Zemmour que quand il a été candidat officiellement. Nous avons une émission tous les après-midi dédiée à la science et à l'environnement, quotidienne. Moi, dans mes éditos, modestement, je pense que j'en parle assez souvent et que je relaie souvent cette préoccupation environnementale ou écologiste. Et dans la question écologique, le climat et le réchauffement a pris le pas sur la biodiversité parce que il y a l'alerte du GIEC. On a beaucoup parlé du GIEC. Je trouve ces remarques un petit peu injuste et en même temps je les comprends parce que l'urgence est tellement forte que ça devrait être à la une de tout. Je pense que France Inter ont fait plutôt le job, plus que les autres, mais sans doute pas assez.
Bah, sans doute évident. Pas assez au regard, messages qu'on reçoit.
Et quand ce sont nos interlocuteurs qui ne sont pas allés sur le terrain de la réflexion sur le modèle économique, le modèle de société. Enfin, vraiment, ils se sont contentés des débats vraiment sur l'éolien, sur le nucléaire, qui n'est pas une petite question.
Oui, mais
il était difficile d'aller sur un autre terrain avec eux. Vraiment, oui, écouter les interviews telles qu'elles ont été menées et les réponses qu'on a eues en face.
Certes, mais c'est aussi aux journalistes de mettre les sujets sur la table.
Moi, je pense que sur cette antenne, la coloration environnementale, la préoccupation environnementale est quand même largement plus présente qu'ailleurs. Certainement pas assez. Merci les auditeurs de nous le rappeler.
Bon, déficit de sujets sur l'urgence climatique pour les auditeurs et en contrepoint, surabondance de commentaires sur les sondages. Ils estiment que si en studio on se délecte des sondages, eh bien eux, de l'autre côté du poste, ne cachent pas une certaine lassitude, voire de l'exaspération envers les dérives sondagières. Voici quelques messages. J'écoute votre émission. Les médias passent malheureusement beaucoup de temps à commenter la campagne sur des données et essentiellement des sondages, plutôt que de s'intéresser au fond, à savoir les propositions des candidats. C'est dommage de ne pas s'intéresser sur ce déficit d'analyse utile à l'auditeur comme à l'électeur. Un autre message. Pendant que vous commentez les sondages, vous ne parlez pas des programmes. Pourquoi ne pas interdire les sondages 15 jours avant les élections? Il y aurait plus de démocratie. Et puis cet auditeur écrit « Le temps passé à commenter les sondages devrait être consacré à la comparaison des programmes des différents candidats. Est-ce que les médias feront un jour une autocritique sur ce point ?» Donc nous avons reçu des messages plutôt virulents. Pourtant, on sait qu'il est utile de décrypter les sondages, comprendre les panels, la méthodologie, les marges d'erreur, la fiabilité, leur crédibilité. Philippe Lefébure, pensez-vous que la place accordée au sondage a été trop importante?
Je veux d'abord faire une précision. France Inter n'a commandé, n'a acheté aucun sondage d'intention de vote. C'était vraiment notre choix. On a demandé à Ipsos des enquêtes, des sondages sur des thématiques, l'abstention, quel président souhaitez-vous, le leadership présidentiel, les jeunes, le vote des jeunes, mais on n'a pas
les
thématiques que vous souhaitez voir développer, etc. Donc ensuite, on ne peut pas évidemment effacer ce qui existe et ce qui est le moteur des campagnes des uns et des autres. Les sondages. Donc, on met du journalisme autour, je le dis un peu. Alors, voilà, il faut du journalisme expliquer pourquoi un candidat change un peu de stratégie, évolue parce qu'il est en retard ou en avance sur les sondages, je ne sais pas. Mais voilà, les sondages existent, il faut les commenter, il faut analyser, il ne faut pas les donner brutes. On a décidé à Inter de ne pas le faire.
Thomas Legrand.
C'est un instrument à destination aussi des auditeurs et des électeurs. Ce ne doit pas être l'instrument principal, mais souvent on oppose le choix stratégique à le choix de conviction. Mais souvent, sa stratégie est guidée par sa conviction. Je prends un exemple qui pourra peut-être parler à certains de nos auditeurs. Des auditeurs qui auraient voulu voter Jadot par conviction, par proximité, est-ce que ceux qui ont voté quand même pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, en se disant que Jean-Luc Mélenchon allait éliminer Marine Le Pen, c'est un cas qui a été assez répandu et qui explique que Jean-Luc Mélenchon soit passé en quelques semaines de 13-14 à 22.
Dans les dernières heures, en fait.
Est-ce que ceux-là n'ont pas fait un choix de conviction? Est-ce qu'ils n'ont pas fait une hiérarchie? D'abord, je voudrais d'abord me débarrasser de l'extrême droite. C'est aussi une conviction. Ça se base sur une stratégie. La stratégie et la conviction ne sont pas... On ne peut pas les séparer en politique. C'est très compliqué de les séparer. Et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les hommes politiques qui auraient le droit d'être stratèges aussi. Les électeurs ont le droit d'être stratèges. Alors, c'est très embêtant de bannir les sondages ou alors de vouloir les interdire pour les auditeurs. Vous savez,
ils sont très nombreux.
S'ils sont interdits pour les auditeurs, ils ne seront pas interdits.
Ah oui, attention, on ne peut pas interdire pour leur production. Donc, ils existent, c'est leur diffusion qui est interdite.
Les politiques auraient le droit de le voir et donc d'adapter leur discours de fond, parce qu'ils feraient ça en fonction des sondages, sans que les auditeurs le sachent.
Ça serait assez malsain. Et là, on nous reprocherait un manque de transparence.
Voilà. Tous ces gens qui critiquent les sondages n'auraient pas aimé avoir des sondages fiables en 2002, quand ils ont voté Taubira, par exemple? Certains se reconnaîtront aussi, je pense.
Le rendez-vous de la médiatrice.
Installez-vous, Monsieur Lassalle, député de la République française. Vous avez, selon les règles d'équité, environ 5 minutes avec nous. C'est pas beaucoup, mais vous allez, je suis sûr, savoir parfaitement les utiliser. Vous aurez donc 5 minutes avec nous. Je sais que ça vous semble certainement trop peu, mais ce sont les règles telles qu'elles sont édictées par nos autorités de tutelle.
N'utilisez pas votre temps. Vous savez ce que c'est que l'équité? C'est le mot habile, le mot valise.
Et là, vous perdez du temps.
Pour l'inégalité. Voilà.
Merci Nathalie Arthaud d'être passée par ce micro. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les autres candidats ou soutiens qui sont passés plus ou moins en râlant à notre micro. C'était pas une émission des plus faciles, plutôt plus que moins.
Nous allons évoquer les temps de parole qui ont régi la campagne électorale. Dans leur message, les auditeurs font part de leur incompréhension, voire de leur crispation sur le temps de parole octroyé à chaque candidat. Parmi les émissions ayant suscité des critiques, Questions politiques diffusées le 27 mars, à laquelle participaient Xavier Bertrand, Amélie de Montchalin, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Jean Lassalle et Nathalie Arthaud. En raison du principe d'équité des temps de parole fixé par l'ARCOM, ex-CSA, les quatre derniers candidats ont eu droit à chacun à 5 minutes pour s'exprimer dans cette émission d'un format de 56 minutes, un principe fustigé par les auditeurs. Alors voici une sélection de leurs messages. Je m'interroge sur cette mascarade que vous avez organisée dans votre émission. À quoi sert ce défilé de candidats auxquels vous ne laissez pas le temps de parler? Tout le monde est frustré, les candidats comme les auditeurs. Ces règles de temps de parole ne sont pas justes et vous, journalistes, vous pourriez refuser de les cautionner. Cette campagne est vraiment décevante à tout point de vue. Un autre message, je suis choqué par votre émission. 5 minutes par candidat à l'élection, comment peut-on permettre une émission aussi gadget, aussi inutile dans un contexte où le risque d'abstention est si fort? Et puis un dernier message, quand est-ce que les journalistes politiques de Radio France se révolteront contre les conditions d'entretien avec les candidats aux élections? L'audiovisuel public se doit de ne plus obéir, mais se révolter au nom du principe d'égalité et non de pseudo-égalité qu'est l'équité. Philippe Lefébure, comprenez-vous la colère des auditeurs?
Je peux faire quand même une petite explication rapide.
Alors, ça s'impose.
Ça s'impose. En période normale, le pluralisme s'impose pour tous les médias, selon la règle d'un tiers pour l'exécutif, 2/3 pour les partis, ce qui est parti, y compris le parti majoritaire. Ça fait une grosse représentation finalement de l'exécutif et des élus qui la soutiennent. La phase élection, il y a deux phases, se décompose en deux. L'équité, donc on donne la parole en fonction du poids politique et de l'animation de la campagne qu'on attribue à tous les candidats, 12 avaient été retenus et ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Et puis, il y a les 15 derniers jours avant le premier tour. Là, c'est l'égalité complète.
Ah, c'est là qu'on s'amuse.
C'est là qu'on s'amuse un peu. Mais ce que dénoncent les... C'est étonnant parce que ce que pointent les auditeurs, c'est la période d'équité. Il y avait deux dimanches, donc deux émissions questions politiques. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on ne peut pas donner la parole aux 12 candidats, une heure à chacun en deux dimanches, on a décidé effectivement de consacrer deux émissions aux 12 candidats ou à leur soutien et de répartir le temps en fonction du temps accordé selon le principe de l'équité. Voilà, donc ça a donné quelque chose d'un peu étrange, j'en conviens. L'autre manière et l'autre décision à prendre, c'était de supprimer les deux émissions politiques en pleine campagne, ce qui était un peu compliqué.
Thomas Legrand, pensez-vous que cette politique du chronomètre conduit les journalistes à faire davantage de comptabilité qu'à remplir leur mission journalistique?
Ah, il l'a pas dit Philippe Lefébure, qui est directeur de la rédaction, donc qui normalement s'occupe de l'animation. Le pauvre pendant ces 15 jours.
Non, moi j'étais chronomètre. C'est moi qui
était. Il était chronomètre. Règles. Toutes les grandes études qu'il a faites pour devenir un brillant journaliste là ont été réduites à chronomètre.
Les cours de mathématiques de lycée.
Et moi, éditorialiste, j'étais même conduit à dans mes commentaires à devoir chronométrer de qui je parlais. Alors je m'étais amusé à expliquer que c'était d'une contrainte littéraire, comme ce que proposaient Lolipo et Georges Perec, qui faisaient disparaître le E, par exemple, dans des exercices de style. Moi, je faisais disparaître carrément les mentions des candidats, ou alors je donnais tous les candidats dans des chroniques, ce qui... c'était une contrainte qui m'a obligé, finalement, à faire des choses que j'ai trouvées intéressantes. Par exemple, j'ai comparé les deux trotskistes, puisque nous avons la chance d'avoir deux trotskistes à l'élection présidentielle. Mais avec ce truc absolument absurde, j'ai parlé par exemple de Nathalie Arthaud et je décrivais un peu un fonctionnement de secte, donc c'était pas tellement favorable, mais ça comptait quand même comme temps de parole pour Nathalie Arthaud, parce que j'assume pas l'idée que ça soit objectivement défavorable. Je décris une réalité, certains peuvent trouver que c'est défavorable, la plupart j'imagine, d'autres qui aiment bien les sectes trouveront que c'est favorable. En tout cas, c'était un travail journalistique.
Oui, les auditeurs sont pleins de la période d'équité et les journalistes et la rédaction sont beaucoup pleins de la période d'égalité où il fallait effectivement donner le même temps d'antenne et le temps de parole aux candidats. Moi, je crois que quand même 15 jours tous les 5 ans où d'un seul coup tous les courants politiques français peuvent s'exprimer de la même manière et pendant le même temps. Je crois que c'est important. Alors ça nous bouleverse beaucoup parce que on travaille pas comme ça le reste de l'année, mais je trouve que c'est un exercice démocratique qu'il faut maintenir quand ils nous demandent de ne pas suivre les règles. Je les invite à regarder sur le site de l'Arcom quels sont les médias qui n'ont pas suivi ces règles. Moi je pense que le service public devait absolument tenir cette règle.
Les médias bolorisés par exemple n'ont pas tenu cette règle.
Voilà. Donc je vous invite à vérifier qui a suivi ces règles, et c'est assez étonnant, et je pense que vraiment, et voilà, 15 jours tous les 5 ans, ça, c'est bien.
Devinez de quoi on parle en ce lundi de Pâques ensoleillé, du deuxième tour évidemment.
Moi, après 5 ans de Macron, je ne peux pas revoter Macron. Ça ne veut pas dire que j'irai voter Le Pen, mais je ne peux pas revoter Macron.
Ça veut dire qu'il y a du boulot pour vous.
Voilà.
Moi, je veux vivre dans un pays républicain. Je considère que Le Pen n'est pas républicain.
De toute façon, je trouve qu'il y a aujourd'hui dans la presse un acharnement, même un lynchage médiatique. Je trouve ça assez désagréable.
On aborde à présent la question des micro-trottoirs qui suscitent beaucoup de messages. Alors en voici quelques-uns. Nous avons encore eu droit ce matin à un micro-trottoir sans aucun sens où quelques électrices et électeurs s'expriment sur leur choix au second tour. Ils expriment d'ailleurs des banalités particulièrement creuses. Autre message, ne pourrait-on pas faire cesser ces micro-trottoirs qui se substituent aux analyses, sachant que ces moments pris sur le vif sont choisis pour faire support de l'argument des journalistes avec ce vernis d'authenticité, donc de vérité. Un autre auditeur écrit, est-ce qu'il serait possible d'arrêter avec ces interviews de quidam qui ne servent à rien? On souhaite du fond, pas du remplissage. Et puis enfin, un dernier message. Je suggère, écrit un auditeur, que des progrès soient réalisés en matière d'usage des micro-trottoirs où les journalistes privilégient les paroles plus que simplistes sans qu'il y ait de contrepoint avec des prises de parole plus consistantes ou nuancées. Philippe Lefébure, que vous inspirent ces remarques de vos auditeurs?
Pour moi, des micro-trottoirs, on n'en fait pas sur France Inter. On descend pas dans la rue pour demander à n'importe qui son avis sur la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien. Ce qu'on a fait pour cette campagne, c'est d'aller voir les électeurs, des fois en situation, je pense à un feuilleton de la France, qu'on a appelé ça comme ça, c'était les zooms spéciaux, le repas en famille juste avant, juste après l'élection, je sais plus, le premier tour, enfin en tout cas voilà, notre journaliste s'est immiscé dans un moment de vie et a laissé les gens parler. Mais elle était reporter, elle a apporté son analyse à distance, elle a pu enlever des choses, laisser des choses dire. L'idée, c'est quand même d'entendre la parole des Français, de ceux qui vont voter, donc ils sont partie prenante de la campagne et de l'élection en cours, et d'entendre ce qu'ils ont envie de dire. Donc on n'a pas à juger ce qu'ils disent. Banalité, je trouve que c'est dur d'entendre ça de la part d'un auditeur. Vraiment, on tend le micro, on essaye de comprendre ce que l'électeur pense et ce qu'il va faire, bien sûr.
Souvent, c'est des illustrations sonores, des petites fenêtres sur la rue, sur la vie, un peu à prendre comme une photo dans un journal de papier. Voilà, personne dit qu'une photo raconte tout. Simplement, c'est voilà, ça rend plus vivant. Mais il n'y a pas effectivement sur France Inter des micro-trottoirs bruts avec de la parole brute.
Et voyons l'ensemble. Le feuilleton de la France est suivi d'un édito écho, d'un édito politique, d'un invité politique. C'est le tout qui doit
de
donner
spécialistes. D'ailleurs, on nous reproche souvent d'avoir trop de spécialistes.
Très bien, merci à vous. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice. Merci Philippe Lefébure.
Merci
Thomas Legrand. Si vous souhaitez faire une remarque sur une émission, poser une question sur la ligne éditoriale de France Inter, vous pouvez nous écrire sur le site médiatrice de Radio France. À la réalisation de cette émission aujourd'hui, Anne-Cécile Perrin, et à la technique, Guillaume Roux.